Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va parler d'un truc que tout le monde a déjà utilisé. Et où vous êtes probablement jamais posé de questions dessus, alors que pourtant, il y a des questions à se poser. Avec Mathieu, nous allons entrer dans la face cachée des speed tests. Ces tests pour tester notre connexion Internet. Que se passe-t-il quand on lance un speed test sur son ordinateur qu'on ne voit pas? Comment ces tests fonctionnent de l'intérieur? Qu'est-ce qu'ils mesurent exactement? Est-ce que c'est vraiment fiable? Quels sont les paramètres qui peuvent influencer le résultat et la vitesse de connexion? Et à qui profitent vraiment ces speed tests qui fleurissent partout? Autant de questions qu'on s'est posées et aujourd'hui, on a décidé de lever le voile sur ces fameux speed tests.
Ouais, et tu le disais, c'est quasiment devenu un peu un réflexe dès qu'on a des petits soucis de connexion, même nous... à la Micorp ou quand on est en émission, de lancer un speed test pour voir s'il se passe pas quelque chose sur notre connexion. Il en existe tout un tas, en commençant par sans doute le plus connu speedtest.net, en tout cas en France, mais en vrai je pense que c'est dans le monde aussi. Chaque gros acteur d'Internet a son speed test. Il y a le speed test de Google qu'on peut, avoir directement sur une recherche Google. Cloudflare a le sien, Netflix également, et j'y reviendrai. Et vous, ouais. Je sais que je te l'apprends. Et vous allez voir qu'il y a une raison au fait que ces gros acteurs aient tous installé des speed tests. Mais alors, qu'est-ce que ça fait, un speed test concrètement? Oh, ça va être un peu chiant à dire ça. Qu'est-ce que ça fait concrètement, un speed test? Et qu'est-ce que ça mesure de façon assez simple? Alors, un speed test, c'est un outil qui télécharge et envoie des données à un serveur pour en déduire deux valeurs. Premièrement, c'est la latence, qui varie en fonction de la distance à laquelle on se trouve du serveur avec lequel on communique. Et c'est une valeur plutôt simple à avoir parce que globalement, on fait un test sur plusieurs secondes et on prend la valeur la plus basse. Parce que ça veut dire que c'est la valeur de la latence qui est la plus accurate, enfin la plus...
Ok. Et ils ne font pas une moyenne ?
Sur la latence, non, parce qu'en fait, c'est une valeur impossible à fausser. Vraiment, si ton message, si tu as une latence de, je sais pas, 10 millisecondes,
C'est 10 millisecondes, quoi.
C'est 10 millisecondes, quoi.
Et donc, juste concrètement, pour dire, un ping, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est qu'on envoie une requête web depuis votre machine jusqu'au serveur, qui zoup, fait tout le trajet, arrive au serveur et revient. Et après, j'imagine qu'il divise par... non, il divise pas par deux, non, c'est juste ça, le ping.
Et pour le débit, par contre, là, en effet, tu as raison, c'est une moyenne. Donc, en fait, c'est le nombre d'octets qu'on a pu transférer sur un temps donné. Et en fait, tu fais ça sur un temps un peu plus long. Et là, tu fais une moyenne. C'est pas une valeur exacte. Après, la latence, attention, on prend la minimum. En tout cas, tous les speed tests font ça. Mais ça peut varier s'il y a des perturbations sur le réseau, etc. Ça, c'est comment ça marche. Mais alors, est-ce que quand on lance un speed test... tout de suite, on s'amuse à balancer 1 gigaoctet et on voit ce qui se passe. C'est pas exactement comment fonctionne l'intérieur d'un speed test. Parce qu'en fait, quand on lance un speed test et qu'on clique sur Go, vas-y, fais-moi un speed test, le speed test en face, il ne sait pas du tout à quelle connexion il a affaire. Donc s'il envoie 1 giga de données d'un coup sur une connexion dans la Creuse en ADSL moins, ça n'existe pas, mais et voilà, ça va mettre 10 heures, ça va juste...
ça va juste saturer, jamais aboutir en fait.
Ça va jamais aboutir, ça va saturer le réseau. Donc c'est pas comme ça que ça marche. En fait, c'est, si on envoie un trop gros morceau, ça va juste saturer la connexion, les résultats seront faussés. En fait, la plupart des speed tests utilise le protocole TCP, qui est utilisé à peu près partout sur Internet. C'est un protocole qui s'assure que les données ne se perdent pas et que tout a bien été reçu. En fait, à certains moments, on va vérifier, on va attendre une confirmation que, ok, très bien, tu as reçu la bonne information. Donc c'est ce qu'on appelle un acknowledge, un ACK.
En gros, c'est ton client qui dit au serveur, c'est bon, j'ai bien eu le fichier en entier.
Exactement. Et du coup, le serveur, il peut continuer à envoyer des données. Et donc, dans le cadre de notre speed test, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à partir petit. Il va envoyer des petits paquets. Et il va tester la connexion. Et si aucun paquet se perd, eh ben il continue et il va pouvoir augmenter un petit peu la taille de ses paquets. Jusqu'à avoir un paquet perdu. S'il y a un paquet perdu, là, ça va redescendre. En fait, ce que fait un speed test, et c'est plutôt intelligent comme fonctionnement, c'est qu'en fait, il s'adapte à notre bob passant. Il y va progressivement, puis à un moment, il va se dire « Ok, là, j'ai perdu un paquet, et donc je vais me restabiliser. »
Est-ce que c'est pour ça que quand tu démarres le speed test, la courbe, elle monte, enfin, elle commence de zéro et...
Pré-shot ma chronique, c'est exactement ça.
Ou la petite flèche, des fois, t'as un truc.
Alors,
comme si tu montais...
Ça, c'est un speed test que j'ai réalisé sur le speed test de Claude Flair, où tu peux télécharger les données de ton speed test.
Ah, d'accord.
Et donc, à chaque fois, c'est des paquets qu'on voit. Chaque ligne, c'est un paquet. Et donc, par exemple, au début...
C'est chez nous, ça.
Ça, c'est chez nous, tout à fait.
D'accord.
Ça a été fait hier, si tu veux, tout ça. Et donc, tu vois, en bleu, c'est je vois pas les noms d'ici, mais c'est la taille des paquets. Mmh. Donc, en bleu, c'est un petit paquet. En vert, ça a commencé à augmenter. De nouveau en bleu, parce que c'est de l'upload. Au début, il fait du download. Après, il fait de l'upload. Et en orange, ça a re-augmenté. Et après, je crois qu'il re-augmente une dernière fois en jaune. Et donc, en fait, il commence petit et il y va assez fort. Et si on peut mettre le graphe qui est juste après...
Oui, on voit que ça commence avec 10 kilooctets.
Ouais.
Après, l'envoi 100 kilooctets. Après, 2,5 mégas, je crois que j'ai vu, en bas.
Ouais, c'est possible.
Donc, en gros, il a comme ça plein de...
Et il envoie plusieurs à chaque fois. Il envoie plusieurs trames.
C'est-à-dire que sur leur serveur, ils ont plein de petits fichiers de différentes tailles.
J'y viens.
Pardon.
Non, mais on va voir comment ils construisent en interne un
c'est marrant, c'est marrant.
Voilà, vous voyez, ça augmente, ça augmente. Et boum, il y a une barre horizontale. Ça veut dire qu'on a perdu un paquet.
Okay.
Et donc, en fait, quand on fait un speed test, c'est pour ça qu'au début, ça fait un peu une courbe exponentielle. Ça monte très, très vite et d'un coup, ça va redescendre et ça va se stabiliser. En fait, c'est parce qu'il a détecté qu'à partir de ce moment-là, on avait perdu un paquet.
Okay.
Et donc, potentiellement, que j'allais saturer la connexion. Et donc, je vais réduire un petit peu les paquets que j'envoie. Globalement, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Jeff Houston, je vais quand même le citer, qui est un grand ponte du réseau en Australie.
Ponte du web.
Un ponte du web, ouais, exactement. Il appartient à l'APNIC, un truc un peu l'AFNIC, mais en Australie, quoi.
Et du coup, la valeur qui est mesurée, enfin, ce qu'on te donne comme étant ta vitesse de connexion, c'est le max que tu peux envoyer sans perdre de paquet?
Alors, en fait, c'est juste qu'il va s'adapter. Après, il va quand même refaire des tests. En fait, il faut juste retenir que le speed test s'adapte à ta connexion. Et donc, il fait des tests. Dès qu'il perd des paquets, il redescend. Mais après, il va pouvoir augmenter un peu. Et c'est pour ça qu'un speed test, ça ne dure pas 5 secondes. Ça dure plus 15, 20 secondes. Parce qu'il prend le temps un petit peu de tester et d'envoyer pas mal de paquets.
Dans le but de maximiser le plus possible.
Voilà,
ce qui peut passer
dans
l'avance passante.
C'est maximiser le plus possible en un temps réduit pour éviter de complètement saturer... tout le réseau à faire des speed tests tout le temps. Alors, bon, on comprend à peu près comment ça marche, il y a des histoires de paquets, etc. On a des premières réponses, mais j'avais envie justement d'en savoir un petit peu plus sur l'intérieur d'un speed test et comment on monte un speed test. Et j'ai pu échanger avec Louis, un Français, un ancien ingénieur réseau de chez Claude Flair, justement, et qui a travaillé sur la mise en place de leur speed test.
D'accord.
Voilà, exactement. Et donc, il a parlé... Alors, c'est pas le... Il y a un ingénieur principal qui l'a fait, mais il était portugais, donc c'était plus compliqué pour parler avec lui. Mais du coup, il a quand même participé à mettre en place ce speed test, et j'ai pu discuter avec lui. Derrière un speed test, comment on fait un speed test? Il y a un générateur de fichiers, en fait. Et si possible, qu'il soit le plus rapide possible, parce que tout ce qui prend du temps, on va essayer de le supprimer, parce qu'on veut que tout aille le plus rapidement possible pour que les mesures soient le plus fiable possible. Et un générateur de fichiers qui soit proche de l'utilisateur, donc potentiellement qu'il fasse ça en local du côté du client. Et surtout, un élément super important pour ce générateur de fichiers, c'est qu'il fournisse des données aléatoires. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le navigateur puisse anticiper les données et du coup les prédire et les mettre dans son cache. Il faut absolument que ça soit des données aléatoires pour pas fausser encore plus. Ah ouais, quand il m'a dit ça, j'étais
ouais, bien pensé.
Intéressé. Et en fait, c'est un défi un peu de faire un générateur de fichiers aléatoire. Enfin, un défi. ça se fait, hein, mais...
Parce qu'évidemment, on l'oublie parfois, mais quand tu vas sur Google ou YouTube, la petite image Google ou YouTube, elle est chargée qu'une seule fois.
Oui.
Le navigateur la redemande pas un million de fois. Il la redemande peut-être une fois par jour ou une fois toutes les semaines pour voir si elle a été modifiée. Mais effectivement, ça pourrait fausser tout le test de connexion, en fait.
Donc ça, c'est la première brique, c'est de faire un générateur de fichiers qui soit plutôt chouette pour un speed test. Après, il faut évidemment mettre au point l'algorithmie qui a derrière cette histoire d'adaptation au débit de la connexion qu'on a en face de nous et d'éviter d'envoyer un giga et que ça prenne 10 heures. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Ce qu'il me disait aussi, dans la mesure du possible, faire un front-end le plus léger, le plus clean possible, éviter d'avoir des images qui mettent 100 ans à recharger, parce que si entre-temps, t'as lancé ton speed test, et ben, c'est un peu chiant.
Ou des pubs partout.
On y reviendra. Combien ça consomme de données un speed test? C'est une question aussi qu'on s'est posée. Alors, ça dépend un peu. Quand on lance celui de Google, il nous annonce que ça va prendre 40 mégaoctets. Là, par exemple, pour celui de Cloudflare, ça a envoyé 169 mégaoctets en download et 56 mégaoctets en upload.
Ah, quand même.
Sur celui... ouais, quand même.
Mais franchement, je réalisais pas que c'était autant. Parce que quand tu fais ça sur ta 4G, par exemple, ou tes trucs...
Mais par exemple, si tu fais ça sur ton forfait Free Mobile à 2 euros, il y a 50 MO de prévu dans le forfait.
Il est pété.
Voilà, il est pété. Hein. Il n'y a plus de...
Ne faites pas de speed test.
C'est pas anodin, quand même. Hein.
C'est pas anodin. Tu vois, sur Netflix, sur celui de Netflix, c'était environ, en tout, 300 mégaoctets.
Ah ouais.
Quand je l'ai testé au bureau. C'était 220 en download et 81 en upload. Donc... Okay. Quand même pas négligeable. Mais en fait, ça dépend de ta connexion. Si ta connexion est pourrie, ça sera moins. Parce que, en fait, il va envoyer quelques paquets et il va très vite s'arrêter d'augmenter la taille de ses paquets. Mais globalement, c'est quelques centaines de mégaoctets.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Alors maintenant, on va arriver aux questions qui nous intéressent. Est-ce qu'un speed test, c'est fiable? Eh bien oui et non. En fait, il y a plein de paramètres qui peuvent influer sur un speed test.
Moi déjà, la question m'intéresse particulièrement parce que je me souviens qu'à l'époque où je suivais de très près le projet Shadow, je ne sais pas si vous vous souvenez, évidemment, le client qui permet d'accéder à un ordinateur à distance pour jouer depuis son Mac ou n'importe où, je me souviens qu'il m'avait raconté que beaucoup de leurs clients se plaignaient du service, le fait que ça marchait pas bien, parce qu'il y avait des problèmes de connexion. Et le problème, c'est que il leur disait non, mais en fait, pour que Shadow marche, vous avez besoin de 15 mégabits par seconde en descendant. Donc en gros, une connexion, une bonne ADSL, grand minimum. Et donc il avait bien écrit ça, il y avait aucun doute qu'il fallait au moins cette connexion-là. Pourtant, il y a plein de clients qui venaient. Qui disait, mais j'ai fait un test de connexion, donc un speed test, et j'ai la fibre, tu vois. Genre, j'ai 100 mégas en descendant, ou alors 300 mégas en descendant, et pourtant, Shadow ne marche pas. Alors que, tu vois, j'ai 300, il faut 15, mais ça ne marche pas. Et du coup, j'ai toujours eu un questionnement sur ces histoires de speed test, sur à quel point ça représente bien le fait d'avoir une bonne connexion. Parce que visiblement, ces gens qui avaient, entre guillemets, la fibre, je ne sais pas si c'était une fibre bizarre, ou en tout cas, ce n'était pas reflété dans le speed test. Que leur co était éclaté. Et du coup, ça m'intéresse.
Alors, je vais essayer de répondre à cette interrogation et cette vaste question. De base, un speed test, c'est un bête calcul de transfert. Vraiment, on envoie des données, on voit combien de temps elles mettent à arriver d'un côté ou de l'autre, entre un serveur et un client. Mais il y a une première douille. C'est qu'en fait, quand on fait un speed test, il va systématiquement essayer de trouver un serveur le plus proche de soi. Sauf que quand on va sur un site web... le serveur, il n'est pas forcément au même endroit qu'on a fait le speed test. Souvent qu'en plus, les speed tests, en fait, derrière, il y a une grosse infrastructure. Ils ont des gros serveurs qui marchent super bien et donc, en fait, qui répondent super vite. Mais en fait, il faut se rappeler qu'on teste vraiment la connexion entre un client et un serveur. D'ailleurs, si jamais vous avez chez vous des serveurs et que vous voulez tester, faire un peu un speed test entre... votre client chez vous et votre serveur qui est hébergé quelque part, vous pouvez installer un petit truc qui s'appelle Hyperf. Voilà, c'est comme un petit truc en ligne de commande que tu peux installer. Il faut l'installer côté client, côté serveur. Et donc, ça te permet de faire ton petit speed test...
Toi-même.
Mais en fait, plus le serveur est proche, plus du coup notre latence est faible. Et en fait, plus la latence est faible, plus le débit est élevé. Pourquoi ? Parce que, en fait, dès qu'il y a un paquet qui est perdu, en fait, on va le demander de le renvoyer. Et du coup, cette action, ça prend du temps et ça fait baisser le débit parce qu'il n'y a pas plus d'informations qui arrivent au client depuis le serveur. Et donc, si la latence est forte, le fait de redemander de renvoyer les paquets qui sont perdus, eh bien, en fait, ça prend plus de temps parce que la latence est grande et du coup, ça fait baisser le débit. Donc, plus la latence est faible, plus votre débit sera grand. Et en fait, tout joue sur on optimise à fond la latence qui est perçue parce que comme ça, ça permet de maximiser le débit. Et tout est une question de paquet perdu.
J'avais jamais pensé.
Ouais.
Parce et qu'en fait, tu le vois pas. C'est-à-dire que toi, tu vois juste que tu as une latence. Moi, la plupart du temps, je me disais juste, tu étais dans un jeu, tu as une latence élevée, tu fais pas de lien logique avec le fait de pouvoir télécharger un fichier vite. C'est deux choses qui n'ont rien à voir, la latence et le débit.
Alors,
effectivement, c'est...
dans les applications, oui, parce que si tu lis ça sur une grande période de temps, et en fait, si t'as peu de paquets perdus, ça n'influe pas. Mais si t'as beaucoup de paquets perdus, ce que vous pouvez tester sur des speed tests, ça influe sur le débit.
Est-ce que la distance avec le serveur augmente les chances de perdre des paquets ?
Alors, en théorie, en fait, si t'es tout seul sur Internet, non. Parce qu'en fait, ce qui va te faire te perdre des paquets, c'est les perturbations qui peuvent venir de plein d'endroits différents. On pourra en reparler. Mais en fait, vu qu'on est beaucoup, en fait, dès qu'il y a beaucoup de trams et de paquets qui sont congestionnés quelque part, ça crée des perturbations. Et donc, du coup, plus c'est loin, plus potentiellement tu as des perturbations.
Et
donc, des paquets perdus. Donc, statistiquement, oui. Et typiquement, ton paquet doit traverser l'Atlantique, bon, ben. Ouais, plus de temps. Mais outre le fait que ça soit plus loin, parce qu'au final, bon, ça va à la vitesse de la lumière sur les fibres sous l'Atlantique, donc c'est vraiment négligeable. Évidemment, un speed test, ça change en fonction de l'horaire à laquelle vous le lancez. Si vous le lancez à 8-9 heures du soir, quand tout le monde a installé, tout le monde visionne Netflix ou Prime Video ou je sais pas quoi, et que en fait ça provoque des congestions de réseau, évidemment, ça peut avoir un impact, ça peut avoir des perturbations sur le réseau, et ton speed test, ça ne sera pas le même que le matin ou le midi.
Apparemment, il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il travaille chez Ookla.
Oula, je vais parler d'Ookla plus tard.
Ben, ça va être intéressant.
Aïe, aïe.
Qui est une boîte qui fait des speed tests. Et en réalité, quand tu lances un speed test, ils en font trois en même temps. Justement pour éviter ce dont tu parlais, à savoir que si jamais tu as des congestions sur un serveur ou des blocages ou des trucs comme ça, pour avoir une moyenne ou un truc comme ça.
Ok. Mais bah, ça, tu vois, on.
Moi, j'ai
pas
hâte
dit.
De quand tu vas parler de Ookla. poser des questions à notre podcast.
Ça me met une petite
expression.
Mais du coup, par exemple, on peut prendre un exemple. On peut fausser les résultats d'un speed test en se disant, ok, si on est tous dans un même endroit, un peu reculé, je sais pas si on est tous en Sibérie, et qu'on décide tous de faire un speed test au même endroit qui va taper le même serveur, et que le serveur. Il est dimensionné, mais OK, et que du coup, il va répondre plus lentement, et bah, du coup, ça va fausser les résultats de ton speed test juste parce qu'en fait, tu es en train de faire un DDoS à ton serveur de speed test. Mmh. Donc, en fait, ça reste un calcul entre deux machines distinctes, et s'il y en a une qui défaille, bah, ton speed test, il est beaucoup moins accurate. Très bien. Donc, si je devais résumer tout ce que je viens de raconter en une phrase, un speed test, c'est un test de connexion à un instant T, qui suit un chemin bien particulier vers un serveur proche de lui. Et déjà, ce chemin peut changer en fonction de l'heure de la journée parce qu'il va y avoir des congestions et ça va passer par un autre chemin. Et ça peut changer de plein de façons différentes. Globalement, c'est bien pour avoir un ordre de grandeur. Ou pour savoir combien de temps va me prendre un téléchargement ou pour évaluer ma connexion avec Netflix. Parce que du coup, si j'utilise le speed test de Netflix, ça représente vraiment bien... le temps que je mets à contacter les serveurs de Netflix. Parce que les serveurs sont les serveurs du speed test de Netflix sont les mêmes que les serveurs qui diffusent les films et séries Netflix. Donc ce qui est intéressant, c'est, voilà, ça s'appelle fast.com, il y a marqué délivré par,
powered by Netflix.
Par Netflix.
Donc ça voudrait dire que tu pourrais théoriquement sur Google avoir la capacité de regarder des films en 4K sur Netflix, mais en fait quand tu testes sur Netflix, bah non,
voilà, exactement.
Ils ne sont pas au même endroit. Quoi.
Et à l'inverse, tu pourrais avoir une super connexion avec Netflix parce que tu l'as fait sur fast.com, mais en fait, sur Amazon Prime ou sur Disney+, ça ne marchera pas autant.
Et dans l'autre sens, en fait, pour Shadow, Ils devraient proposer aussi un speed test.
Leur propre speed test. Je pense qu'ils l'ont. Et d'ailleurs, ils l'ont fait entre temps. Voilà.
Puisque du coup, c'est peut-être ça aussi la
différence
entre.
Et en fait, on ne connaît pas l'infra qu'il y a derrière Amazon, qu'il y a derrière Disney Plus et derrière tous ces serveurs. Autant les serveurs de speed test, la plupart du temps, en tout cas, par exemple, speedtest.net, ils sont vachement bien optimisés parce qu'il faut qu'ils marchent à balle. Mais en fait, tu connais pas exactement comment vont réagir. Et en plus, tu connais pas les connexions entre ton opérateur à toi et Netflix, Google, Amazon ou Shadow. Et on va y revenir. Alors justement, est-ce que mon opérateur, il peut enjoliver un speed test? Est-ce qu'il peut faire en sorte que...
En gros, qu'il te fasse croire que t'as une gigafibre alors qu'en fait, non.
Voilà.
Et ça les arrangerait.
Et franchement, j'ai eu la réponse, j'ai demandé à Louis, justement. Oui.
Non.
En fait, il y a un concept en réseau qui s'appelle la QoS, qu'on peut traduire par la qualité de service, qu'on peut faire chez soi dans son coin, mais aussi qu'on peut faire à un niveau d'opérateur. Et en fait, tu peux très bien détecter les trams qui viennent, les paquets, les trams qui viennent d'un speed test, par exemple speedtest.test, qui est très connu, et prioriser à fond le fait que ces trams, on les délivre en premier, mais et c'est ce qui va aller le plus vite possible. Alors, tu pourras pas passer d'une ADSL à d'une fibre, évidemment.
Mais c'est tellement smart.
Mais tu peux. En fait, tous les opérateurs font de la QoS, de la qualité de service, c'est-à-dire qu'ils priorisent certains aspects. Et d'ailleurs, j'ai un exemple très marrant, c'est le cas de Free. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est il y a un petit moment maintenant, mais quand Free Mobile est sorti, et puis même sur Twitter, ils ont joué, on voyait un peu des speed tests, des connexions Free ou Free Mobile publiées sur Twitter en mode, ouais, c'est vraiment les meilleures connexions et tout. Ils ont joué un peu dans leur communication. À mon avis, ils avaient bien opti la QoS de speed test. Si tu faisais le même speed test sur le speed test de Google, qui s'appelle MLab, je crois. Je sais plus, bref, tu as speed test
Google. Qui n'avait pas de boost.
C'est pire que ça. Tu n'avais pas du tout la même connexion. Pourquoi? Parce que c'est une époque où Free avait des problèmes de peering avec Google. C'est-à-dire qu'ils étaient en conflit avec Google. Ils voulaient que Google paye parce qu'ils trouvaient qu'ils prenaient trop de bandes passantes d'un côté et pas dans l'autre sens. C'est des histoires de gros sous entre opérateurs et GAFAM.
Les réseaux, etc.
Mais globalement, c'était un peu chiant quand tu étais Free à l'époque parce que ta connexion avec Google était vraiment détériorée. Et tu avais un nombre de gens qui se plaignaient de ce problème sur les forums qui était fou. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était dans les années 2012 à 2015. Quoi. Je sais pas quand le problème s'est résolu d'ailleurs. Par exemple, tu téléchargeais une appli sur le Google Play Store, je me souviens, sur Android, ça mettait 10 ans. Si t'étais pas,
c'est parce que Niel était fâché avec.
Et parce qu'il y avait un conflit, il y avait vraiment un conflit de, on appelle ça de peering, donc d'interconnexion entre Google et Free. Et donc, du coup, vu que c'est les mêmes serveurs de Google, si tu faisais ton speed test sur Google, il était nul à chier.
Éclaté.
Parce que juste les interconnexions avec les serveurs de Google étaient nuls.
Cette histoire de QoS, tu viens de me brailler.
Mais parce en même temps, c'est évident.
Mais parce que c'est évident. Mais alors, juste pour préciser, en gros, c'est comme si, de manière générale, on s'imaginerait que toutes les requêtes de tous les appareils du réseau Internet sont traitées de la même manière. Mais en fait, ce que tu disais, c'est qu'avec le QoS, donc c'est des fonctions qui te permettent de dire non, mais probablement que telle requête, elles sont plus critiques que telle autre, qui peuvent attendre un peu.
Et typiquement, c'est obligatoire, et quelqu'un l'a dit dans le chat, pour les appels d'urgence. Il faut que les appels d'urgence qui passent par IP, ils soient prioritaires, et donc il faut absolument qu'il y ait une QoS de priorisation des appels d'urgence. Et il y a d'autres cas, tu vois, mais c'est ça. Et alors, petit bémol, c'est impossible à prouver que les opérateurs font bien de la QoS sur speedtest.net. Mais bon, en tout cas, ils ont la possibilité de le faire. Et il y a d'ailleurs, autre exemple, le même cas avec Netflix. Il y a des opérateurs, et même encore aujourd'hui, où typiquement, il y a tellement de trafic et ça consomme tellement Netflix que pour essayer de fournir de la bonne bande passante vers Netflix à tous ses abonnés, tu vas dégrader un petit peu la QoS de Netflix à certaines heures de la journée, etc. Parce que sinon, tu t'en sors pas, ou ça te coûte trop cher, ou tes accords de peering avec Netflix sont ce qu'ils sont, etc. Et donc, du coup, si tu fais ton test de connexion sur fast.com, qui est le speed test de Netflix, tu pourras avoir un résultat
moins bon,
un peu différent ou moins bon, par exemple, que sur Google ou que sur un service qui est moins utilisé à 10h du soir. Voilà. Alors, du coup, conclusion, tous les Google, Netflix, etc., vu qu'ils ont tous un peu des conflits d'intérêts parce qu'ils font autre chose qu'un speed test, ça, on pourrait se dire, le plus fiable, c'est speedtest.net. Finalement, il appartient à aucun grand GAFAM.
Eh ben, en fait.
Eh ben, en fait. Non, juste, je sais pas pourquoi, il y a un problème dans mes notes, mais tout va bien. Est-ce que, du coup, ces services de speed test qui font que du speed test nous cachent quelque chose? La réponse est oui. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire un bon speed test, en fait, il faut une sacrée infrastructure réseau. Il faut des serveurs partout qui soient le plus proche de tout le monde tout le temps. Il faut des serveurs qui puissent gérer minimum 10 gigabits seconde, parce qu'aujourd'hui, il y a des connexions qui sont parfois capables de faire du 10 gigabits seconde, même chez des gens comme vous et moi. Bon, c'est des belles installations. Il en faut partout. Il faut des fibres qui relient les points de présence réseau partout dans le monde. Ça coûte un bras. Alors, OK, Google est capable de faire ça parce qu'il y a d'autres raisons. Comment Speedtest est capable de faire ça? Et alors, d'ailleurs, chose assez... Non, mais je le dirai après. Comment font-ils, du coup, ces speedtests? Eh bien, c'est très simple. Ils récoltent des données, et parfois pas forcément anonymisées.
Oh.
Et en fait, ils les revendent. Alors, pour Netflix, Google et Cloudflare, et consorts, ils les revendent pas forcément, mais en fait, ça les aide dans leur infrastructure. En fait, ça permet de débugger leur infrastructure. Ça permet de savoir à quel endroit leur connexion, leur peering, leur connexion avec leur service marche mieux dans le monde. Où est-ce qu'il y a un problème? Où est-ce qu'il faut débug? Bref, en fait, c'est comme mettre des sondes un peu partout dans le monde pour savoir comment va leur état de leur réseau.
Mais
et pourquoi?
C'est les gens qui les font tout seuls.
Et sauf que c'est des gens qui les font tout seuls, ils ont rien à faire. Mais en fait, eux, ça leur permet d'avoir des petites alertes partout. Et donc, pourquoi tous les gros services qui ont des infrastructures de réseau absolument immenses mettent en place des speed tests? Ben en fait, c'est pour ça.
C'est pas une genre de carte d'Internet.
Exactement. Ça cartographie leur propre réseau.
C'est donc, marrant.
C'est pas...
pas grave, non,
c'est
mais...
pas grave, hein. Ouais. Mais ça cartographie... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour connaître la vitesse d'Internet, il n'y a pas d'autre moyen que de juste tester pratiquement avec un speed test et d'envoyer des paquets et de voir combien de temps ils mettent à revenir. En fait, tu peux faire toute la théorie.
Okay.
Ouais, si tu peux faire toute la théorie que tu veux, tu peux prendre les valeurs théoriques de normalement ça a du 3 gigabits seconde. Oui, mais en réalité, t'as pas 3 gigabits seconde, t'as 500 mégaoctets. Et donc, du coup, en fait, la seule possibilité, c'est de faire speed test. Mais alors, du coup, je me suis un peu embrouillé dans les pinceaux, mais du coup, speed test mon est, c'est les gentils de l'histoire. Et en fait, pas du tout. Ils ont une méga belle interface qui est bourrée de pubs. Soit dit en passant, ils ont absolument des serveurs partout, ils ont tout un marketing pour encourager à faire le speed test. J'en ai lancé un cet après-midi, il m'a dit, on a fait plus de 50 milliards de tests de connexion. 50 milliards.
Dans la journée, tu veux dire?
Non, depuis... On est 7 milliards. Et en fait, ils s'en servent pour récolter des milliers et des milliers de résultats. Et ils vendent ces données soit à des agences marketing, on a fait attention aux IP...
Et surtout, je croyais que c'était en direct. Et surtout, je me suis dit, là, le test d'upload en même temps que la diffusion sur Twitch, je sais.
Bah, je crois que
c'est en direct.
Ah, d'accord. Ouais, peut-être que j'ai maintenant.
Mais du coup, en fait, ils revendent.
On est toujours vivant, a priori, on est toujours vivant. Mais.
Je vais me permettre d'intervenir maintenant, je comptais attendre la fin. Mais en fait, quand on a changé de chronique, j'ai dû recharger tous mes assets. Arc, notre navigateur de feu, a rechargé tous les liens de tous les speed testers en même temps, et le débit est absolument tombé. Au moment où tu as commencé ta chronique en disant « Alors, les speed tests, on a pris un divisé par 4 en bitrate. » Voilà, c'était la petite...
Ah oui, donc ça a marché. Non, mais effectivement, les gens, ils nous ont perdus. je trouve ça à mourir de rire.
Alors, ils nous ont pas complètement perdus. On est passé de 6500 kilobits seconde à 2500. Donc oui,
ça va.
Grande perte, mais
en
on
gros,
est toujours là.
Oui, normalement, on a une diffusion qui s'adapte et qui et où on devrait compenser le manque de
progrès.
Mais je trouve ça à mourir de rire que pile au moment où on teste l'upload de l'émission, je sais pas, je me suis dit, tap. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça maintenant? Pardon, et du coup?
Mais du coup,
effectivement, l'interface est magnifique, ça a l'air.
L'interface est magnifique. Il y a pas mal de pubs et tout. Il y a tout pour encourager à faire plein de speed tests. Et en plus, c'est un peu les leaders du marché. Mais en fait, ils récoltent énormément de données. de connexion, d'IP et parfois même plus. Et en fait, ils revendent ces données, c'est leur business model, soit à des agences marketing pour du ciblage, parce que ça peut permettre de faire cibler des pubs, soit à des États ou par exemple à des agences comme l'ARCEP, qui gère le réseau français, peut être très intéressé par avoir des données de connexion pour cartographier un peu le pays, avec des précisions assez importantes. Tu peux avoir... tu peux avoir l'IP, le user agent, etc. Et j'ai une anecdote incroyable qui prouve un peu ce qu'on dit, enfin qui émet une hypothèse. Louis, avec qui j'ai discuté, il a demandé à Comcast, donc c'est aux États-Unis que ça se passe, c'est son opérateur, il a demandé ses données privées. Tu peux faire des réclamations RGPD, alors là-bas ça s'appelle pas comme ça, mais pour avoir accès à ses données privées. Et dedans, il y avait des données de résultats de tests de débit, de sa connexion, de son adresse IP, avec des précisions, genre l'heure des tests, son user agent, etc. Et en fait, c'est très 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 probable que ça vienne de Ookla et que Comcast lui-même, en tant qu'opérateur, ait acheté une étude, une banque de données pour évaluer la connexion de ses utilisateurs et de ses adresses IP à Ookla. Et en fait, c'est un business.
Mais c'était okay. Pas...
C'est incroyable.
Tu te dis pas qu'il pourrait y avoir un lien entre ton opérateur et le site de ton Spitess.
Et fait, genre là, vraiment...
Il y en a potentiellement un qui est le client de l'autre, en fait.
Voilà, et là, vraiment, dans les données que Comcast avait sur lui, il y avait des données d'un test de connexion, très certainement fait sur Ookla, avec des infos assez... précise, enfin pas tout anonymisé, assez précise sur le fait que c'était bien une machine qui lui appartenait, quoi. Alors peut-être qu'ils l'ont pas acheté, ils l'ont récupéré. Parfois aussi, il y a des données qui sont accessibles sur Internet, hein. Mais bon, c'est quand même
ils l'ont scrappé ou
peut-être qu'ils l'ont scrappé, etc. Mais il y a quand même une possibilité où ils ont acheté la banque de données.
Non, c'est potentiellement.
Et ce qui est marrant, et puis c'est le business de Ookla. Ookla appartient à une firme qui s'appelle Ziff Davis, qui est une grande firme qui fait plusieurs choses. Ils sont en même temps dans la cybersécurité. Ils ont des VPN, notamment ils ont IPVanish VPN, Strong VPN. Ils sont aussi dans les magazines, ils ont PC Mag, et donc si vous voyez...
ils font aussi des VPN.
Ouais, ils font des VPN, Ziff Davis. En gros, c'est des gens qui... c'est dur à expliquer, mais ils ont des médias. Donc par exemple, sur PC Mag, vous aurez des tests de VPN, et souvent, dans les premiers résultats qui tombent, ça sera leur VPN, parce qu'évidemment, ça leur appartient. Ils ont Mashable aussi. Et ils ont aussi Ookla. Et en fait, ça leur permet d'agréger plein de données et de revendre des données un peu partout à qui ils veulent.
C'est marrant, la combinaison plateforme de communication et business en ligne très rentable.
Mais ça permet en fait, les plateformes de communication permettent de faire de la pub pour les VPN, pour Ookla, pour mettre des pubs, parce que c'est des
trucs
sites
qui probablement marchent plutôt
tech,
bien.
Tu vois, PC Mag, Mashable, Lifehacker.
C'est tellement smart. Quel écosystème.
Alors, c'est pas. Ils ont tout à fait le droit de faire ce qu'ils font, mais c'est ils ont racheté plein de trucs et qu'ils se sont fait une petite galaxie et que Ziff Davis est une énorme compagnie.
Mais c'est intéressant de comprendre les mécanismes sous-jacents que tu peux voir. Je sais pas, moi, tu vas faire tes recherches sur ton VPN. Là, tu vois le top 5 des VPN sur PCMag, par exemple. Bon, bah, t'es content quand même de savoir que PCMag est dans l'industrie et ont tel et tel acteur. C'est comme tu dis, c'est leur problème, mais c'est intéressant de le savoir, quoi.
Pour avoir regardé, il y a un petit moment, eux, ils sont plutôt réglo, ils l'indiquent. Alors, en petit, en bas du feed, mais ils indiquent toujours. PCMag est une société de Ziff Davis qui détient tel et tel VPN. En vrai.
Disclosure, mais.
Bon, personne ne lit ce message, mis à part peut-être moi, mais. Mais voilà. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que les opérateurs font aussi des speed tests. Et souvent, ils les font la nuit pour éviter justement congestion du réseau, parce que ça peut quand même avoir un impact. Mais eux aussi, ils ont besoin...
Mais de leur côté.
De leur côté, sur leur infra en perso. En fait, tous les acteurs du réseau, c'est un truc qu'ils font tout le temps. Et du coup, j'en arrive à ma conclusion. Déjà, qu'est-ce qui détermine la vitesse de connexion? En fait, c'est deux choses. C'est, bon, déjà, de un, on s'en doute, c'est les limites physiques des équipements réseau. Bah, que ça soit si vous avez la fibre, le cuivre, les équipements réseau qui sont sur le chemin entre le client et le serveur, les câbles... Tout ça peut avoir des aspects limitants. Et en fait, le deuxième, c'est les perturbations du réseau qui vont entraîner des pertes de paquets. En fait, l'un des trucs, si vous voulez savoir si votre connexion est fiable, regardez les pertes de paquets. Il y a certains speed tests qui vous donneront le pourcentage de perte de paquets. Je crois que c'est le cas sur Cloudflare, mais sur d'autres aussi. Et en fait, c'est le pourcentage de perte de paquets, c'est ce qui fait descendre votre débit à cause de la latence. Si vous avez bien suivi.
C'est maintenant ce qui a été corrigé d'ailleurs dans Shadow pour reboucler, puisque dans ton interface, tu vois ton débit descendant, mais aussi les paquets perdus.
Voilà.
Parce que c'était, depuis le début, c'était ça.
C'était ça le problème.
Le truc qui foutait la merde, c'est que les gens avaient des bons débits théoriquement, mais en fait avaient énormément de pertes de paquets qui leur pourrissaient leur expérience sur Internet. Quoi.
Ouais, et surtout quand tu es sur du stream vidéo, on sait un peu ce que c'est.
Important, ouais.
Les pertes de paquets ont un gros impact. Et donc du coup, pour finir, un speedset, ça vous donne un aperçu, une indication de votre connexion entre un serveur donné et vous. Mais en fait, aujourd'hui, déjà avec les débits qu'on a, qui sont de plus en plus grands, c'est devenu quasiment inutile parce que on commence tous à avoir la fibre, pas tous, mais en fait, à partir du moment où si tu sais que tu as la DSL, la fibre, tu auras des différences, mais qui ne seront pas énormes. Et surtout que si vous avez des soucis de connexion, c'est plus probable en fait qu'ils viennent d'un autre élément. Je ne sais pas, le serveur que vous essayez de contacter, il a des problèmes et que ça ne soit pas votre connexion à vous. Mais en réalité, le speed test est surtout utile à celui qui l'héberge. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites un speed test, vous avez une petite information pour vous, mais c'est super utile pour speedtest.net ou Google ou Cloudflare ou Netflix qui cartographie l'ensemble de son réseau. C'est pas grave, vous donnez pas des informations de connexion, mais en fait, c'est plus utile à ceux qui hébergent les speed tests qu'à ceux qui les font.
C'est hyper marrant. C'est vrai que j'avais jamais pensé comme ça.
C'est fou.
J'ai pas l'impression de participer à cartographier Internet quand je fais des speed tests. J'y penserai les prochaines fois.
Enfin, c'est cartographier le réseau d'un acteur en particulier.
Et rien n'est gratuit aussi.
Rien n'est jamais gratuit en fait.
Oui, c'est marrant de voir des boîtes complètes qui peuvent financer des infras. Ouais. Extrêmement cher, juste parce qu'elles font de l'intelligence et de la donnée. Quoi.
Et ce qui est fou, c'est que déjà, un speed test, ça coûte super cher à mettre en place.
Ouais.
Parce qu'en fait, il faut des grosses infras. Alors, quand tu les as déjà, c'est OK, mais quand tu les as pas déjà, c'est OK. C'est pas OK. Et en plus, ouais, en fait, rien n'est anodin. C'est fou.
Petite question, et je sais pas si tu as eu des infos sur cette partie-là, mais théoriquement, si je fais un speed test avec mon iPad, ce que je mesure, c'est donc le trajet entre des requêtes, entre mon iPad et un serveur quelque part sur Internet.
Ouais.
Donc en réalité, on peut se dire que ça mesure deux choses. C'est à quelle vitesse vont les requêtes entre mon iPad et mon routeur, et à quelle vitesse elles vont ensuite entre mon routeur et Netflix, par exemple.
Ouais.
Est-ce que tu sais ce qui peut influer, est-ce que tu sais ce qui peut influer le plus entre mon iPad et mon routeur, tu vois ? Exactement, en local. Parce que là, on a beaucoup parlé du fait qu'il peut y avoir des congestions, des pertes de paquets sur le réseau. Est-ce qu'il y a aussi des trucs en local qui peuvent avoir une influence sur le débit que je veux obtenir?
Alors déjà, c'est intéressant parce que le calcul de la latence qu'on fait et du débit entre un client et un serveur, en fait, c'est vraiment la latence de bout en bout. Donc, tu peux pas en déduire les latences entre tes morceaux. De tes différents équipements. Tu peux pas savoir s'il y a c'est à cause d'un routeur qui merde au milieu de ton passage, si c'est à cause de ton device à l'origine, c'est plutôt à cause de ça. C'est vraiment de bout en bout. Donc encore une fois, c'est assez imparfait en fait comme technique pour avoir la vitesse de ta connexion. Et alors, ce qui influe entre ton appareil et ton routeur, et ben ça va être comment tu te connectes, les équipements, est-ce que ton routeur il est capable de gérer du 1 gigabit seconde ou plutôt du 100 millisecondes, est-ce que il est en wifi, est-ce qu'il est en Ethernet, est-ce que il est connecté en USB, ton téléphone est connecté en USB et il fait du partage de co, et en fait ça va beaucoup dépendre de la physique, et ça va aussi dépendre de ce que font les autres gens sur ton cerveau, sur ton réseau. Par exemple, j'ai appris un truc, c'est que tu peux être très proche en Wi-Fi de ta box, de ton routeur, avec un bon débit, un Wi-Fi 5 ou un Wi-Fi 6, Wi-Fi AC, Wi-Fi AX. Si tu as un mec avec son téléphone qui est loin et qui galère, qui galère à envoyer des requêtes parce qu'il est loin ça galère beaucoup plus, ça a un impact sur le mec qui est tout près.
Ouais. En gros, le routeur, c'est comme ça, il fait des efforts entre guillemets pour essayer de discuter avec cette personne qui a très longue portée, et donc ça détériore toi ton expérience alors que t'es à 2 mètres.
En fait, tout le système IP fonctionne en best effort. C'est le principe de l'IP. Et donc, du coup, ça a un impact.
Donc, best effort, ça veut dire qu'on t'essaye de faire le max pour tout le monde. Ouais. Quitte à pourrir la vie de certains au détriment de d'autres.
Voilà, d'où la QoS qui est parfois bien utile.
Ok. Intéressant. Et alors, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais peut-être le chat l'aura. Est-ce que, je sais que pour les souris, par exemple, tu peux avoir en réalité des latences plus faibles sur ton PC avec des souris sans fil qu'avec des souris filaires. Ce qui paraît complètement contre-intuitif quand tu y penses, parce que tu te dis que les informations, elles passent plus rapidement via un câble que dans l'air. Est-ce que tu sais si jamais ton débit il peut être meilleur en Wi-Fi qu'en filaire?
Ouais, il peut être meilleur. Aujourd'hui, il peut être meilleur parce qu'en fait, ça a tellement évolué qu'en fonction de ton câble que tu utilises, eh ben, ton Wi-Fi peut juste être meilleur.
Donc, c'est-à-dire que c'est typiquement, si tu as une installation fibrée dans ta maison ultra moderne, ce que personne n'a quasiment, dans ce cas-là, peut-être pas parce que...
Non, en gros, la fibre, c'est un peu le meilleur des mondes. C'est ce qui passe sous l'Atlantique et en fait, c'est à la vitesse de la lumière dans un tube qui est guidé. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, ta lumière, elle ne peut pas aller dans tous les sens comme une onde radio. Elle est vraiment guidée sur une fibre optique. Et en gros, la fibre optique, c'est ce qui va le plus vite. Mais en fait, si tu prends par exemple la câble torsadée, je crois que c'est limité à 100 Mbps. Aujourd'hui, il y a du Wi-Fi qui va à plus de 100 Mbps.
Donc
en fait, ça dépend de ton câble et ça dépend de tes équipements et ça dépend de... Il faut faire des comparatifs, en fait. Par exemple, de l'USB... Si t'es en USB, si tu branches en USB, t'es limité à ton téléphone... Et après, derrière, tu fais de l'Ethernet, t'es limité à 300 Mbps en USB 2. Mais si tu vas en USB 3, c'est beaucoup plus.
Donc, en fait, t'as plein de limitations. Donc, si tu fais un partage de quoi avec ton iPhone, tu peux être limité par ton câble USB qui est...
Évidemment. En fait, tu es limité par chaque transmission ou appareil de transmission. Et s'il y en a un dans le tas qui merde, ça sera la vitesse la plus faible qui l'emporte. Donc, c'est pour ça que, par exemple, faire des installations à 10 Gbps, c'est méga cher parce qu'il faut acheter des câbles incroyablement vif et robuste. Il faut acheter tous les routeurs qui coûtent super cher, etc.
Apparemment, du coup, en câble torsadé, donc les câbles RJ45 que tu peux acheter, tu peux monter à 1 gigabit seconde.
Ah oui, bien sûr. Je ne parlais pas des câbles torsadés, je parlais plus du câble, la paire de câbles numéricables. Enfin, c'est pas le Internet. Ouais.
D'accord. Donc
le coaxial.
Le coaxial, parce que t'as dit torsadé.
Oui, je me suis trompé. Le coaxial, okay. Pardon.
Ok, donc en coaxial, t'as des limitations.
Je crois. T'as des limitations partout.
Mais du coup, effectivement, avec les dernières normes Wi-Fi, en fait, tu peux probablement atteindre des débits qui vont dépasser des installations classiques à 1 gigabit seconde. Typiquement, moi, je sais que si tu vas mettre du CPL dans ta maison, ce qui est un truc qui est quand tu fais beaucoup dans des maisons un peu anciennes et tout, en gros, tu utilises
le réseau électrique
de la maison pour envoyer du RJ45. De l'Ethernet, et souvent, tu ferais mieux d'être en Wi-Fi, en fait.
Ouais.
Parce que des appareils récents qui sont en Wi-Fi 6, etc., vont largement exploser ton débit et ta latence.
Ouais, et par exemple, le réseau 5G aussi joue énormément. Je crois que la 5G millimétrique, dans certains cas, j'ai un petit doute là-dessus, mais tu peux atteindre du 1 gigabit seconde. Ce qui est plus que ton réseau local, hein, chez toi. T'as pas du 1 gigabit seconde. Donc dans certains cas, en fait, le cellulaire, il peut aller plus vite. Donc en fait, à la base, qui était vrai en filaire, où ça va forcément plus vite en filaire, c'est des contraintes physiques. Si t'es en Wi-Fi, tu vas avoir des contraintes radio, donc tu peux avoir beaucoup de perturbations, et donc du coup créer des packet loss, et donc du coup avoir un débit moindre. Et en physique, en fait, ça va dépendre des perturbations de ton câble. Si ton câble n'est pas de qualité, s'il est capé en dessous, t'auras une vitesse moindre.
Je fais une remarque extrêmement drôle. Un message du chat, il dit « Dès qu'on parle de réseau, personne n'est d'accord, c'est dingue. »
Oui,
c'est extrêmement drôle de voir qu'on a lancé des débats à l'infini.
Il y a des débats là sur le chat.
Oui. Sur le fait que si sur du coaxial, en fait, tu peux monter à plus d'un gigabit seconde, mais seulement sur un mètre, parce qu'après, ça commence à...
Et en fait, ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que tu peux avoir du 1 gigabit théorique, mais en fait, tu n'auras jamais du 1 gigabit sur toutes les destinations dans tout le globe.
Oui.
En fait, ça va vachement dépendre. Tu peux très bien, si ton serveur est méga loin et super mal desservi, entre guillemets, tu seras peut-être à 100 mégabits pour l'attendre, tu vois.
Parce qu'il suffit qu'il y ait un moment sur le réseau
ouais.
que les, C'est comme si les nœuds d'Internet, c'était un peu des
si t'es au Kazakhstan et qu'ils ont fait n'importe quoi avec le routeur, no offense pas au Kazakhstan, en plus je crois qu'ils ont un beau réseau parce qu'ils ont plein de fermes de minage, mais ouais, complètement.
Et donc en fait, c'est comme si t'avais des nœuds qui étaient trop desservis, enfin trop occupés à certains endroits du globe. Si ton chemin passe par là, globalement, t'as beau avoir la meilleure fibre symétrique à 1 gigabit seconde, tu vas avoir une connexion avec la...
J'ai même une anecdote qui va, je pense, va retourner le chat parce que je vais me faire insulter, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai. C'est dans certains cas, vous savez, quand tu utilises un VPN, c'est forcément plus long.
Ouais.
Ce qui est physiquement vrai parce que tu encapsules ta connexion dans quelque chose d'autre et le fait d'encapsuler cette connexion, bah, ça rend...
Que la rendre plus lente.
Si tu es dans un moment où il y a une congestion de réseau, je reprends le Netflix à 20h, et que tu es loin, par exemple, tu dois traverser l'Atlantique, j'ai déjà entendu des gens me dire que si tu prends un VPN, ça peut potentiellement aller un poil plus vite parce qu'il va passer par un chemin différent. Bon, là, après, il faudrait faire des cours de BGP, de routeur et tout machin, mais il va prendre un chemin différent. Il n'aura peut-être pas les mêmes congestions. Et du coup, malgré le fait que tu utilises un VPN, tu peux aller un petit peu plus vite. Je ne l'ai pas fait moi personnellement, mais j'ai discuté avec des gens, et je les crois profondément, qui l'ont vérifié. Sur des grandes distances, donc là c'était traverser l'Atlantique, à minimum.
C'est donc, littéralement.
Côte ouest Europe, quoi.
C'est littéralement l'équivalent de Waze.
Ouais.
Qui te fait un énorme détour, exactement, mais où tu finis par gagner du temps.
Ouais. Attends, mais
c'est
du
débat.
Coup, ça veut dire que si tu fais un speed test avec un VPN.
Ah, bah du coup, la même chose. Ouais. Okay. Ouais, complètement.
Ok, ok.
Et en fait, les VPN, c'est. En fonction de ton VPN, c'est aussi des infras. Ils ont des grosses infras très très bien implantées et ils sont capables de te faire passer par des endroits incroyables de leur réseau, tu vois.
En passant très peu de temps, oui. Passionnant. Eh ben, je sais maintenant comment marche la thèse de connexion. Non, en vrai, je n'avais jamais vraiment creusé le truc, alors que c'est un truc qu'on utilise vraiment tout le temps, tous.
Du coup, moins maintenant.
Moins les utiliser peut-être.
Bah, justement, le chat a parlé d'une alternative qui existe et qui est libre, qui s'appelle LibreSpeed. Je me permets de la partager, qui est du coup ton propre speed test que tu héberges libre, open source,
et
tout ça.
À mon avis, comme tu le disais Mathieu, tu vas l'héberger sur un de tes serveurs et donc ça va imiter, enfin ça va te...
Je pense que c'est comme Hyperf, non?
Ouais, à mon avis c'est ça. Et à mon avis, ça va te donner un speed test avec ton serveur. C'est-à-dire que si ton serveur il tient pas bien la route ou alors sa propre connexion à lui est éclatée, bon, ça peut un peu fausser tes résultats.
Ouais, typiquement, si ton serveur il est chez tes parents, ton speed test sera pas ouf.
Exactement.
J'en profite quand même parce que je l'ai pas refait, mais je remercie grandement Louis avec qui j'ai pu échanger. On n'a pas pu faire de visio parce que c'était trop juste, mais en vrai, si c'est intéressant, on peut toujours le faire après l'émission. Non, je te le dis.
C'est vrai.
Mais si tu penses que ça apporte un truc, juste là, il prenait un avion, c'était compliqué.
En vrai, je sais.
Mais voilà, merci beaucoup Louis qui a travaillé chez Cloudflare et qui a littéralement participé à implémenter un speed test. Donc, il y a eu plein d'infos que j'ai eues grâce à lui.
Bah, franchement, ça peut être intéressant. Okay. Sur les parties opérateurs, des trucs comme ça, ça peut être cool de lui poser des questions. Trop cool. Ça clôt la troisième chronique de cette émission. J'espère que vous l'avez appréciée. Nous, on se retrouvera dans 2 semaines. On ne fait pas de pause pour la fin de l'année. Donc, rassurez-vous, on part en vacances. Mais on sera bien là présent dans 2 semaines pour la prochaine émission d'Underscore mercredi à 19h. En attendant, vous pouvez follow cette chaîne Twitch. C'est très important pour ne pas rater ça. Et surtout qu'on est toujours à l'heure. Et moi, je vois des gens, après, on commence les émissions, ils sont en mode « Ah, ils ont commencé à l'heure, mais moi, je suis en retard. Ben » voilà, si vous voulez pas que ça arrive, il suffit de vous follow.
Vous avez la petite notification.
Exactement. Et sur ce, on vous souhaite une extrêmement belle soirée.
Bonne soirée à tous.
Et à très bientôt.
Très bonne soirée.
Et nous, on va manger des pizzas.
Et bonne fête.
Bah oui.
On se revoit juste après, le 3 janvier.
Bah t'as quoi ? J'allais oublier. Joyeux Noël à tous, en avance. Et on se voit dans 2 semaines. Tchuss.
Tchuss.
Des bisous.